I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Ma vie, j'aurai un manque de chat.
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious.
Quand c'était la balle noire, j'ai dit, mais je fais quoi? Je saute dans le terrain. Mais bon, il n'était pas du mon côté. Et là, j'ai dit, bon, bah, il faut que je me déchire quelque part. Et c'était le t-shirt.
Le numéro 1 mondial, l'Espagnol, Rafael.
Salut, c'est Max, bienvenue sur le podcast Tennis Légende. On vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro pour diffuser un nouvel épisode chaque mardi, alors abonne-toi tout de suite au podcast pour être sûr de ne rien rater. Aujourd'hui, grosse alerte, interview de légende. On reçoit un homme qui a fui son pays pour survivre à la guerre en venant se réfugier en France. Ce personnage au franc-parler est originaire d'une terre de champions, la ville de Novi Sad au nord de la Serbie, qui a vu grandir plusieurs numéros 1 mondiales comme Monica Seles, Ana Ivanovic et la charismatique Andrea Petkovic, plutôt propre pour une ville de 250 000 habitants. S'il y a bien un mot qui peut résumer le parcours de cet acteur du circuit pro, c'est résilience. Alors oui, c'est à la mode de dire qu'un tel ou une telle en a fait preuve, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Bloqué 9 ans en France suite à son exil, notre invité est assimilé un peu n'importe comment à 15, puisqu'il gagnera jusqu'à moins 15 cette année-là. Son passeport enfin en poche, il se lance sur le circuit et monte 400e à l'ATP en un an et demi, quasiment sans argent, sans coach et avec une pression infernale bien différente de celle qu'on ressent sur deuxième balle à 30-40, puisqu'il joue aussi pour nourrir sa famille, étant père de 2 enfants à 20 ans seulement. À court de moyens, il saisit l'opportunité de coacher un joueur plus qu'atypique, le croate Ivo Karlovic. Ensemble, et selon son expression, ils ont travaillé comme des chiens, jusqu'à intégrer le top 20 à 38 ans, tout en partageant la même chambre d'hôtel, 80% du temps, tellement leur complicité était forte. Son CV parle pour lui, il a ensuite emmené l'Allemande Andrea Petkovic top 10, Philippe Krajinovic de la 130e à la 26e place mondiale en faisant finale à Bercy au passage, et enfin le Bosnien Damir Dzumur aux portes du top 20, joueur qu'il classe dans les plus gros fêtards du top 100. Si tu suis le circuit de manière légendaire, t'auras reconnu l'inimitable Petar Popovic qui s'est retrouvé torse nu quand son poulain Krajinovic s'est qualifié pour la finale du Rolex Paris Master. N'écoute pas cet épisode si t'es un peu prude, car clairement Petar ne l'est pas. Pote du Joker, il est bien placé pour nous dire pourquoi selon lui il sera toujours moins populaire que Rog et Rafa. Et même s'il nous livre sa tactique pour le battre, Petar voit Djoko devenir LE joueur le plus titré de tous les temps. On parle aussi du mental des Français en comparaison de celui des Serbes. Il est encore une fois bien placé pour y avoir grandi puis coacher ses champions des Balkans tout en ayant vécu près de 10 ans en France. Petit rappel qui fait une énorme différence pour nous, c'est de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sympa, ça nous va droit au cœur et nous pousse à tout donner chaque semaine pour vous régaler. Petar a économisé de l'électricité pendant l'interview, si vous la regardez sur la chaîne YouTube Tennis Légende, vous verrez qu'il fait la moitié quasiment dans le noir, mais ça n'enlève en rien la saveur de son récit hors du commun. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne découverte et une bonne écoute à tous.
Je suis en Serbie, oui, à Novi Sad.
Bon, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté, c'est hyper sympa. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es arrivé en France, à quel âge et dans quel état d'esprit ?
En 99, en mars, très bon copain de mon frère qui était pilote chez OTAN, il a dit bah, « tes parents et ton frère, il faut qu'ils dégagent au plus vite de Serbie parce qu'on va le bombarder ». Donc on est parti en voiture, on a pris des affaires et je suis parti à Sainte où mon frère il a joué handball professionnellement. Il était déjà là-bas en France. Poitou, Charente, Sainte, d'accord. La Rochelle. Donc, et j'ai passé à Sainte un an et demi avant de venir sur Paris. Et sur Paris, j'ai resté pendant 8 ans.
C'était la frayeur de partir de Serbie. C'était comment l'état d'esprit?
Le pire possible. Donc il y a un pire qui peut arriver à l'humanité que la guerre. Et surtout la guerre civile et surtout la guerre dans ta ville que tu aimes le plus et où ils sont tous tes amis. Donc c'est dans un état d'esprit catastrophique. Donc pendant un an, j'étais un peu perdu en France parce que j'ai venu en France, je ne parlais pas du tout français. Peut-être ouais. Je connaissais 10 mots. Et à Saintes, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent anglais. Donc, c'était très compliqué au début. Donc, et surtout, quand je suis arrivé en France, ils m'ont donné... Et il faut que je nomme cette personne parce qu'il ne connaissait rien en tennis. Dominique Peuil, il m'a donné le classement 15 en France. Et moi, j'avais déjà largement le niveau de moins 4-6. Donc, du coup, j'ai perdu une saison et demie. Voilà, j'ai perdu mon temps. Donc, je n'ai pas pu gagner d'argent et rien. J'étais à 17 ans là-bas sans rien. Donc, ouais. Et j'ai été obligé de passer. Mon premier tournoi, je jouais à l'Agor où j'ai passé, je pense, 14 tours. J'ai battu même moins 15. J'étais classé à 15. Du coup, c'était pas... Un an et demi, c'était des souvenirs catastrophiques, on va dire comme ça. Une fois que j'ai déménagé à Paris, ça allait mieux en mieux déjà. Mon état psychologique et tout allait mieux. Où j'ai rencontré ma femme et voilà. Donc c'était à partir, on va dire, de 2001, ça a commencé à être très bon. Et je me suis habitué en France. J'aime la France. J'aime la France et j'ai commencé à aimer la France qu'à partir de... on va dire 2001-2002. Au début, pour moi, c'était comme si j'étais enfermé en prison, on va dire comme ça. Même si la France, c'est un pays formidable, mais c'était comme ça l'expérience personnelle que j'ai vécue.
Tu as des amis qui sont morts à cause de la guerre dans ta ville natale?
Vous avez des amis proches, non, mais dans le bombardement, il y avait 2000 civils morts. Donc, ils ont même bombardé l'école, ils ont bombardé la télé et tout ça. Donc, il y a oui, plein de monde qui se manque, qui n'ont pas dû être morts. Ce n'est pas l'armée, les gendarmes. Donc, voilà, c'était... Mais surtout que je n'ai pas pu revenir en Serbie pendant 8 ou 9 ans. Et c'est le pays que j'aime plus au monde, l'endroit que j'aime plus au monde, parce que j'étais bloqué en France. Mon passeport serbe, il était expiré et j'étais bloqué en France carrément. Pendant 5-6 ans, je n'ai même pas pu faire des tournois à l'étranger, faire des tournois futurs ou challenger à l'étranger. Donc, j'étais vraiment dans une situation super compliquée à gérer.
Toi qui es coach aujourd'hui et qui connais le très haut niveau, est-ce que oui. Tu sais pourquoi tu n'as pas réussi à... aller au-delà de la 400e place mondiale?
Déjà, c'est simple. Bon, mon début, moi, j'étais très fort jusqu'à mes 17 ans. J'étais déjà à 16 ans numéro 1 en Serbie de moins 18. Après, j'étais bloqué. Bon, la guerre, déjà, ça m'a touché psychologiquement. J'ai eu des blessures graves et j'ai eu mononucléose que j'ai traîné longtemps. Donc, on va dire au passage que j'ai perdu 2 saisons. Et voilà, après... J'ai pas eu l'argent pour me payer un coach et tout ça. Donc, arrivé vraiment tout seul, vraiment tout seul, j'arrivais à 400e place en une saison et demie professionnelle qui est, je pense, super rapide. C'était bien comme progression, mais après, j'éteins les limites. Donc, il faut quelqu'un. J'éteins mon limite si j'allais voyager tout seul. Et j'avais la famille déjà, donc j'étais père très tôt. Et je n'avais pas vraiment le temps à perdre. Parce que même si tu es 400e mondial, tu galères au niveau financièrement. Et ma femme, elle était étudiante. Et donc, ce n'était pas vraiment évident à gérer tout ça. Donc, quand j'ai joué avec la pression. Mais pas la pression de perdre un match, mais au niveau financier. Donc, pression financière qui est super compliquée à gérer. Et après, comme j'ai dit, j'avais besoin de quelqu'un. Avec un coach, moi, je sais que j'avais le matériel à être dans le top 100 maintenant quand je regarde en arrière. Mais tout seul, c'est dur de te pousser, de te corriger dans les moments chauds des matchs. C'est assez simple. J'avais besoin d'un entraîneur. J'étais papa déjà à 20 ans, à 20 ans et demi. Donc, mon fils, il a 17 ans et demi maintenant. Et voilà. Donc, il a même allé avec moi dans un premier tournoi étranger. On est allé au Portugal. Toute la famille, il était avec moi où j'ai gagné le satellite. Ils sont ouais. avec moi. Donc, il y a plusieurs trucs pourquoi je n'ai pas percé plus haut.
Comment tu t'es rapproché de Ivo Karlovic au départ?
Bon, au départ, déjà, Dušan Vemić, c'est un de mes meilleurs copains. Il était joueur. Il est venu deux dernières années, de 2007-2008. Il passait deux mois chez moi à Paris. Il venait avant Roland Garros et tout ça. Et lui, il était partenaire de double d'Ivo Karlovic. Et donc, déjà, contre Duchesne, je l'ai entraîné en même temps. Quand j'étais joueur professionnel, j'ai joué des tournois professionnels, j'ai joué des CNGT français, j'ai joué des matchs par équipe. J'ai fait les entraîneurs dans le club mercredi dès que j'ai pu et j'ai entraîné Duchesne Vemiz. Donc, moi, j'ai déjà fait cinq choses en même temps, même quand j'étais 400-500 mondial. Et voilà, donc par Duchesne Vemiz, j'ai connu Ivo. Bah, si on passe déjà à 2009, quand j'ai rencontré Ivo, on était à Miami ensemble et lui, il a perdu 9 premières tours de suite. Il était vraiment dans le trou. Il cherchait un coach, il a arrêté avec le coach. Là, on a commencé à travailler un peu et moi, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé que tu perds 9 premiers tours de suite? Et lui, il a dit, il a changé de raquette. Il a changé complètement la raquette. Et du coup, il est revenu à ses nouvelles raquettes. Il est venu sur Paris chez moi. Il a resté, même s'il a perdu au premier tour de Roland contre Hewitt, il a resté encore 3 semaines chez moi à Paris. On s'est entraîné comme des fous. On a fait des séances de 3h30 d'affilée pendant 3 semaines. Et on est partis tous les deux en Angleterre. Et là, il a déjà fait le boom. Donc, il a gagné aucun point cette année-là à l'ATP. Et là, il a gagné 5 matchs au Queen's. Et après, à Wimbledon, il fait quart de finale où c'est son meilleur résultat au Grand Slam. Et après, on est parti aux États-Unis. Il a enchaîné des super résultats. Et du coup, il a fini. Il a sauvé l'année où il pouvait sortir facilement de 100. Il était dans les top 30. Et voilà. Et comme ça, ma carrière de coach a décollé direct. Après 3 mois de travail, j'ai eu de la chance et opportunité de commencer avec un joueur de si bien classé et avec ce potentiel-là. Mais ça décollait direct.
Vous entraîniez où à Paris?
J'ai joué pendant 7 ans à Bagneux dans le club. Et après, j'ai 2 dernières années en tant que joueur, je jouais à CAM de Montrouge. Donc, on s'est entraîné à Montrouge sur terre avant Roland. Et après Roland, on s'est entraîné dans un tout petit club à Paris sur dur. Je ne sais même pas le nom de club pour être honnête.
Je crois que vous étiez allé à Montrouge au SMTC aussi avant Wimbledon.
Oui, on était à SMTC, ça c'est, et on était à Châtillon, je crois, ou dans un club sur dur. On s'entraînait là-bas et j'ai changé complètement le système d'entraînement que lui il avait par avant, parce qu'avant il s'entraînait comme un joueur normal.
Ouais.
Et du coup, on a fait tellement de services, volés, des attaques et tout, et voilà, et ça marchait tout de suite. Donc j'ai eu cette chance. Mais bon, avant d'entraîner Karlovic, j'ai entraîné à Bagneux des enfants, j'ai joué avec des joueurs qui sont avec Tabatrung, Maxime, il était, je crois, promotion en France. Donc c'est pas vraiment que j'ai commencé tout de suite avec Ivo.
Qu'est-ce que ça fait de coacher un des joueurs les moins faciles à regarder? Karlovic, c'est un joueur qui a eu beaucoup de mal à trouver un sponsor, par exemple, qui n'avait pas forcément la cote. Oui. Comment tu le vivais, quoi?
En fait, moi, j'ai simplifié complètement son jeu. Donc, pour moi, c'était facile. Et lui, même s'il avait eu 3 ans de plus que moi, il a eu confiance totale des débuts. Donc, il est le mec le plus facile à coacher. Beaucoup plus simple qu'un mec à 4, 6 ou 5, 6. Ou je sais, il est complètement ouvert d'esprit. Même dans les moments chauds, 6-5 au tie-break, au troisième, tu le dis, décale au deuxième balle, il décalait. Donc, il ne se posait pas la question. Même s'il prenait un ace sur le T, le service lacé, il ne prenait pas de mal. Donc, pour moi, c'était il m'a donné l'opportunité à décoller si haut en tant qu'entraîneur. Et c'était simple. Moi, j'ai dit à lui qu'il arrête complètement son revers lifté parce qu'il faisait une fois sur deux une faute. Donc, quand j'ai commencé avec lui, j'ai dit, tu vas faire que chipper en slice et dès que tu peux décaler en coup droit, tu décales. Et chaque balle courte ou même pas très courte, tu vas au filet. Bon, après, en 2014, quand je l'ai coaché, c'était encore mieux qu'avant parce que moi, j'avais déjà l'expérience parce que j'ai passé 4 saisons avec Petkovic où j'ai eu des super résultats et tout. Et là, c'était encore mieux. Là, on a changé où il a servi deuxième balle à 190 parce qu'avant, il servait à 160 la deuxième. Là, il a pris une autre dimension. Donc, à 34, 35, 36 et 38 ans, il était top 20. Et en plus, en dehors de ça du cours, on était des meilleurs potes. Mais on est toujours des super copains. On dort de cours, donc on a passé du bon temps ensemble, on passait toute la journée ensemble, On a même dormi, allez, 80% de cas, dans la même chambre d'hôtel avec des autres joueurs. Normalement, tu ne partages pas la chambre d'hôtel, mais avec lui, c'était, on était vraiment proches. Et c'est pour ça les résultats, ils ont été si bons. Il faut se dire qu'avant 34 ans, quand je l'ai pris 12e fois, il était 160e mondial. Donc, tout le monde se disait, tout le monde rigolait sur moi. Pourquoi tu as pris Karlovic? Il est si mal classé, il est fini, il est vieux. Mais voilà, après 4 ans après, j'ai montré qu'il a eu tort.
Allez là. Quels sont les 3 meilleurs souvenirs sportifs que tu as avec Ivo?
Avec Ivo, il y a des tournois déjà qu'il gagnait. Mais là, en fait, tu sais quoi? On se souvient plus de moments qui font plus mal que les bons moments. Ça, c'est incroyable au tennis. Déjà, on va commencer par le pire souvenir, c'est mon fils à Washington. Ça, ouais. Je peux dire qu'on n'a pas dormi pendant 2 mois. Même s'il a gagné le tournoi après, ça faisait tellement mal parce que Gaël, il ne pouvait même pas arriver à 30 dans un jeu où Ivo, il sert pour le match à 6-4, 5-4 pour un titre de 500 et il se met à mouiller, lancer la balle n'importe où au service. Et voilà, donc ça, c'était les pires souvenirs. Mais le meilleur souvenir, bon, c'est ses victoires. Il y avait un Roland où il bat Dimitrov, quand Dimitrov, il était top 10. Et ouais. Il faut dire qu'avant ça, Roland, il a gagné 2 fois le match en 10 saisons. Et il fait 3 ans de suite, 3e tour. Ça, c'était des super souvenirs. Il y a des victoires aussi, 24-22, ou victoires anthologiques, ou je ne sais pas, même à Wimbledon. Meilleur souvenir, on va dire, quart de finale au tout début, quand j'étais jeune. Et tout de suite, il fait quart de finale à Wimbledon. Oui, bat son gars, il était 5e mondial, Verdasco qui était 8e ou 9e. Mais il y en a plein. Hein. Quand tu passes 5 saisons et demie, tu ne peux pas raconter des meilleurs souvenirs en 2 minutes.
Qu'est-ce qui t'a appris sur le tennis, Ivo?
Déjà au service. Moi, déjà, chaque joueur que j'entraîne, j'apprends même plus d'eux que eux de moi. Donc, ouais. Voilà, c'est... Mais avec Ivo, énormément en service. Moi, je voulais tout le temps parler. Il a corrigé même mon propre service. Et déjà, son mental, qu'il a peur de personne, qu'on respecte. Pas respecter autant, on respecte chaque humain, chaque joueur, mais zéro respect avant le match. Donc, il faut vraiment qu'il te batte sur le court. Moi, j'avais ça quand j'étais jeune, quand j'étais en Serbie. Moi, j'avais cet état d'esprit que je vraiment respectais personne. Et en France, on perd ça parce qu'en France, le système avec des perfs et avec le classement, il te fait, même si tu joues à un mec qui a 2-3 classements au-dessus de toi, que normalement tu vas perdre et tu le regardes oh, et tu le dis bien joué, blabla. Donc, et lui, il m'a remis un peu mon mental que je l'avais avant, qui était inné dans moi, que j'ai vraiment zéro respect pour personne. Qu'il sort sur chaque match. Avec l'état d'esprit, il peut battre ce joueur. Parce que lui, il m'a raconté l'histoire quand il avait 25 ans, il a joué au 4e tour Federer. Et avant le match, il pensait « Ah, j'ai envie de faire un bon match. Tu sais que faire un bon match ?» Et il sort du coup, il perd 7-6, 7-6, 6-7, 7-6. Et après ce match, il voulait se tabasser parce que s'il avait différents états d'esprit, il pouvait passer, ça pouvait passer. Mais il était juste content à accrocher Federer. Donc, c'est surtout au niveau de mental que j'ai appris beaucoup avec lui.
Est-ce que vous faisiez beaucoup de coordination comme il est géant?
Oui, beaucoup de coordination. Lui, il fait vraiment beaucoup de physique. Il fait vraiment, vraiment, il fait tous les jours le muscu avec Slaven, son entraîneur physique. Il travaille beaucoup. Et comme je l'ai dit, en tennis, on faisait 40 minutes de volley par jour. Donc, son volley, il était, on va dire, OK. Mais il est devenu un super volleyeur. Et son revers slicé, il était moyen, mais en tant qu'on s'entraînait qu'en slice, il est devenu hyper fort. Oui, beaucoup sur le jeu de jambes, beaucoup sur le déplacement, parce que lui, il faut toujours qu'il travaille beaucoup en muscu aussi, énormément de jambes, parce qu'il faut qu'il ait fléchi, qu'il ait bas. Et c'est pas évident pour lui.
Comment est-ce qu'il fait pour être toujours là à 41 ans?
Bah, son travail, comme j'ai dit là. Là, il a un peu baissé déjà, on a arrêté parce que j'ai senti, même on a arrêté, il était top 20 hein, toujours, j'ai senti qu'il n'avait plus la niaque. Mais il pouvait être même maintenant top 50, sans problème. s'il a la même envie à l'entraînement et qu'il sort tous les jours taper 3 heures la balle et faire des trucs comme il faut. Lui, il a pas le même niaque comme avant, mais ouais. il s'entraîne toujours, il va servir tous les jours 40 minutes tout seul, il va avec son panier, il fait du physique, mais tennistiquement, il a baissé. Maintenant, il s'entraîne 1h30 par jour à la moyenne. Mais comme j'ai dit, il c'est super fort où il est à 41 ans, mais il pouvait être même top 50. Je suis persuadé parce que le service, il est toujours là.
Si tu lui mets des boîtes de balles dans les coins aussi.
Tu peux le mettre poil, même à poil là. Tu peux le mettre et il descend par une boîte de balles. Non, mais c'est impressionnant. En service, c'est de loin meilleur d'histoire. Il n'y a même pas de comparaison aux premières balles. Deuxième balle, il est venu à niveau d'Isner, mais première balle, de loin le meilleur. Surtout sur le surface rapide.
Et si tu n'avais pas été son coach, tu ne te serais pas dit, putain, regardez Karlovic, c'est chiant.
Bah, en fait, en France et en Europe, il y a du monde qui réagit, surtout en France, ils disent c'est chiant. Mais par exemple, aux États-Unis, c'est une attraction. Comme on avait beaucoup de célébrations aussi après chaque sa victoire, on faisait un peu le show. Aux États-Unis, c'était rempli. Il y avait plus du monde qui regardait lui qu'un mec à 20e mondial qui joue gauche-droite. Moi, j'aime la diversité. Déjà, tout le monde, presque, maintenant, il joue pareil. Ils ont de bons coups droits revers, surface, elle est pareille partout. Donc voilà. Et en Asie, en Japon, c'était Godzilla vivant. Donc, quand on sortait en ville, il y a des gens qui sont venus comme ça. Il approche, il le regarde et lui, il fait « Ouh !» Comme ça, il va. Il commence à crier, il court. Donc, à Japon, c'était, voilà, c'était une présence. Mais oui, c'était spécifique. Moi, en fait, ça ne me faisait pas chier. Surtout qu'il avait break d'avance, je prenais plaisir à regarder.
Mais bien bon, sûr. Ton joueur, c'est différent. Ensuite, pour coacher une fille, est-ce que tu as dû changer beaucoup de choses dans ton discours, ton approche ?
Bah oui, moi, j'ai un discours assez sec et assez franc. C'est un peu choquant, donc... Petković, heureusement qu'elle est de Balkan, elle est serbe aussi. Donc, elle s'est habituée, mais au début, quand on a commencé, premier mois, ce n'était pas bon. Donc, déjà, discours par rapport aux filles, et déjà rajouter des choses progressivement. Moi, au début, j'ai dit, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Mais bon, avec Petković, c'est un thème, il faut que je te parle 20 minutes. Je ne peux pas te dire 4 ans. On a travaillé 4 ans, je ne peux pas te raconter une minute, voilà. Mais c'était, oui, j'ai changé, j'ai progressé énormément en tant que coach, en coachant une fille. Donc, et il faut dire que Petković, c'est la plus grande travailleuse que j'ai jamais rencontrée dans le monde professionnel de sport, n'importe quel sport.
C'est elle qui est venue te chercher ou c'est toi qui allais la voir?
Ben, en fait, ses parents, ils ont une maison à Novi Sad. Et elle passe à Novi Sad. Et du coup... Comme Ivo, il était blessé et il n'était pas certain est-ce qu'il va revenir parce qu'il était déjà âgé. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire juste le tournée aux États-Unis? Parce que moi, j'y vais continuer avec un coach. Elle me disait ça. Moi, je dis, vas-y, on fait une tournée aux États-Unis. Comme j'ai dit, 3 premières semaines, ce n'était pas formidable. Mais déjà, elle avait aussi le mental un peu comme les Français ou les Allemands. Ils respectaient tout le monde déjà. Deuxième match qu'elle joue, et moi je le coach, elle jouait contre Sharapova. Et Sharapova, elle mène 6-1, 4-1. Et Andrea, elle a plus 10 à chaque point que Sharapova, elle fait. Même si elle fait un bois, une ligne, elle est en retard ou je ne sais pas quoi. Elle m'appelle au coaching au bain ou à Cincinnati. Et moi, je descends et je ramène que le papier et le stylo. Et je lui dis, bah, écoute, quand le match se finit, tu prends l'autographe d'elle. Voilà. Tu lui prends l'autographe parce que tu le regardes comme une star et je sais pas, tu le respectes trop. Mais vas-y, gueule dans sa face, démonte-la. Bon, elle perd ce match, elle perd le 6-3, mais du coup, elle a commencé un peu à gagner le mental serbe. Et après US Open, elle fait 4e tour où elle bat Petrova, 5e mondial. Et on va dire qu'après US Open, pendant 3 ans, elle a perdu qu'une fois avant le 3e tour. Donc, chaque fois, elle passait au moins 2 tours dans le tournoi et elle n'avait plus aucun respect pour n'importe quel jeu. Donc, elle est devenue une Serbe, une vraie Serbe.
Après avoir coaché Karlovic, ta valeur, elle a doublé, triplé, quadruplé en tant que salaire de coach?
Ah bah oui, oui. forcément. Bah déjà, après Petkovic, comme je dis, Petkovic, elle était top 10. Moi, je l'ai pris, elle était 40e mondiale. Et elle était dans les top 10 pendant deux saisons. Donc déjà là, mon valeur, est... je pouvais entraîner une fille, je pouvais entraîner, on va pas dire n'importe qui, mais j'avais déjà les portes ouvertes. Le jour où j'ai arrêté avec Petco, j'avais quelques offres, mais moi, j'ai pris tout de suite et j'ai appelé Ivo. Pour deuxième fois, en deuxième, là, on parle de 2014. J'ai appelé Ivo et là, j'ai dit, bah, je viens d'arrêter avec Petco. On commence, on recommence, on fait une aventure. Elle lui dit, oh putain, moi, j'ai pris le coach il y a un mois et demi, il est super gentil. Je ne sais pas quoi faire. Là, c'est compliqué. Oh. Et il m'a dit, je rêve. Quelqu'un m'appelle. Ma mère m'appelle. Ma mère m'a appelé. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit ça. Il dit, oh, il faut que je réfléchisse. Il dit, bah, je te rappelle. Dans... Moi, je lui ai dit, bah, il faut que tu me rappelles dans une heure. Peut-être je suis pris. Et lui, il m'a rappelé 10 minutes après. Il dit, tu sais quoi? On y va. On commence demain. Donc, wow. on se retrouve demain à Memphis. Et bon, après l'histoire, bon, après, il fait finale directe. Ce n'était pas de coaching tennistique, mais il avait de nouveau la confiance et vraiment un ami à côté de lui et vraiment quelqu'un qui faisait confiance. Et derrière, il enchaîne demi-finale, finale. Il fait 4 finales cette année-là. Et déjà, comme j'ai dit, en dehors de 100, il a commencé l'année peut-être 160. Il a fini déjà peut-être 22, je vais dire 22, je ne suis pas sûr, je n'ai pas tous les chiffres exacts, je me souviens de chaque résultat, mais des classements exacts, je ne me souviens pas, et bon, c'était comme ça. Et après, tu parles de valeur, mon valeur vraiment où il a explosé, c'est après Krajinovic, où je l'ai pris, le mec, il a commencé l'année, il était 300e mondial, et moi, ouais. Je l'ai pris, il était 130 mondial. Mais vraiment, lui, il n'a jamais passé. Il a passé une fois deuxième tour à la tournoi ATP avant ça. Et lui, il avait aussi énormément de problèmes avec le respect et tout. Et après tous les résultats de Bercy et 5 Challenger qu'il a gagné et où il a monté à 26e place, là, vraiment, mon valeur, il a explosé.
C'est bon ça. Avant de trop avancer, est-ce que tu peux nous faire pareil les 2-3 meilleurs souvenirs avec Petkovic, même si. Ça prend du temps, n'hésite pas.
Des meilleurs souvenirs où elle fait dans la même année, 2011, elle fait 3/4 de finale de Grand Chelem. Donc ça, c'était bon. Elle gagnait aussi le titre à Strasbourg avant Roland. Ça, ouais. C'était bien. Mais où la même année, elle fait 2 finales de Masters et 2 demi. Donc là, c'était... En même temps, c'était des super souvenirs. En même temps, c'était des souvenirs qui font très mal. Parce qu'il perd le final de Masters à Pékin où elle mène 4-2 ou 4-1 en troisième contre Advanska. Elle perd et chaque quart de finale de Grand Slam de même année, elle n'a pas joué. Mentalement, elle n'était pas habituée à jouer tout de suite si haut et enchaîner des matchs si forts. Donc vraiment, des 3 défaites assez sèches et mal joué. Donc en même temps, des meilleurs souvenirs, mais toujours un goût... amère, ou je ne sais pas comment on dit en français, parce qu'elle perd assez sèchement. Elle perd 6-1, 6-4 en Open Australia au quart de finale. En quart de finale de Roland, elle perd 6-0, 6-3 contre Sharapova, où elle a battu 2 fois la même année, sans jouer. Et quart de finale de US Open, qui était chaotique, où elle a dû jouer sur Armstrong à cause de la pluie. Ils l'ont mis sur le court numéro 13 devant 300 personnes, jouer quart de finale de Grand Chelem. Elle était perdue contre Wozniacki. C'est pour ça que c'était le goût amer, parce que si elle, donnait, si elle a joué avec son potentiel qu'elle avait et son niveau et qu'elle perdait, moi, je n'ai pas de goût amer. Mais vraiment, quand tu joues à 20% de tes moyens des matchs si importants, ça fait mal. Quand je pense même en arrière, ça fait mal.
Et pourquoi elle a dégringolé après au classement? Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, elle était top 10, elle était 9e mondiale et elle avait 4650 points, je me souviens exactement. Numéro 1 mondial, Wozniacki, elle avait 6000 points. Donc, il n'y avait que 1400 points de différence. Parce que pendant cette période, Serena, elle était pas, elle jouait pas ou elle était blessée. Du coup, elle avait 5 mois à pas défendre des points à Andrea. Donc, elle avait vraiment le chemin ouvert d'être au top. Et là, il arrive une blessure. Elle fait une glissade à Stuttgart où elle fait une entorse de cheville. Où elle pète les 3 ligaments elle pète tout dans le cheville. Donc, elle est obligée de faire l'opération. Elle fait l'opération et elle a 5 mois d'arrêt. Donc, on n'a pas attendu 6 mois qu'elle prend le classement protégé. Et premier tournoi de retour, où elle n'était pas vraiment prête, elle se pète le ménisque. Donc là, elle n'a pas joué encore pendant 4 mois. Ouais. Et du coup tu as perdu le classement. Donc, elle a dégringolé sans jouer. Mais après, il faut se dire qu'elle est revenue en 6 tournois. Elle est revenue en dehors de 100 à 30e mondial. Donc, c'était hyper rapide, le remontada de Petko.
Après, elle a jamais vraiment retrouvé le niveau qu'elle avait avant.
Bah, l'année où on a arrêté, elle était déjà 30, où il avait 9 mois points de défendre. Elle est re-entrée où elle était, on va dire, 11e mondial ou 10e mondial. Mais après, elle a commencé, comment on dit, dégringoler tout doucement. Donc, ouais. À mon avis, elle ne s'entraînait plus avec la même intensité, parce qu'on était comme des deux fous. Elle est, comme j'ai déjà dit, la plus grande travailleuse au monde entier. Elle mérite chaque euro qu'elle a gagné au tennis. Ouais. Donc, quand j'entends les joueurs ATP qui se plaignent pourquoi les filles gagnent autant d'argent et tout, mais j'ai dit, si un de vous qui s'entraînait comme Andrea, vous étiez dans les top 5 faciles. Tous les mecs que j'ai coachés, s'ils ont fait l'entraînement comme Andrea, ils sont dans les top 5. Donc déjà, je les fermais la gueule vite fait.
Concrètement, sur l'entraînement, elle faisait combien d'heures? Elle faisait quoi en plus que les autres?
Déjà, l'intensité, moi je l'ai entraînée 4 ans et elle a fait peut-être une séance à 90% d'intensité, d'engagement. Elle était tout le temps en bloc à 100%. Ouais. C'est pas, je suis genre d'entraîneur qui n'aime pas faire les 2 séances par jour, donc faire une séance, mais une vraie, de 2h30 ou 3 heures de séance, mais à fond. Elle était tout le temps là, mais c'est incroyable. Je peux même pas. Même ses matchs, elle jouait, elle était tout le temps là, tout le temps. Parce qu'au niveau de talent, quand on regarde service, coup droit, rien n'est exceptionnel. Donc, mais elle a ce talent de travailleuse et dans la tête qui est impressionnant. Donc, elle faisait la différence tous les jours par rapport aux autres. Elle donnait 20% de plus que n'importe quel autre joueur ou joueuse. Et donc, son talent qui n'était pas énorme, naturel, elle a récompensé par l'intensité dans le travail. Elle était toujours réfléchie. Elle était professionnelle à 100%.
Concernant Philippe Krajinovic, j'ai lu que Novak lui avait payé des coachs, donné un appart à Belgrade. A priori,
il a joué. Il a laissé l'appart à utiliser. Déjà, ça, ils ont mal traduit mes phrases. C'est un journaliste en France qui a tourné mes mots. Donc, il a laissé l'appart qu'il peut utiliser et vivre gratuitement dedans. Et c'est vrai qu'il payait ses coachs, il payait un Italien, un entraîneur italien. Et voilà, Novak, il a toujours cru, même quand lui, il était 200e mondial, il a toujours cru en lui parce que tout le monde en Serbie sait quel potentiel il a. Il a une technique parfaite. C'est le mec plus solide au tennis parce qu'il a un coup droit revers de dingue. Il peut changer de direction de 2 coups à n'importe quel moment. Il a amorti de revers, il a un super volet, il n'avait juste pas un service exceptionnel et il n'avait pas de couilles, on va dire comme ça. Et moi, je l'ai rajouté les couilles déjà, et qui sert comme un homme. Sa deuxième balle, elle était hyper faible, elle a l'air 120. Et après juste quelques mois de travail, il a commencé à servir 160 au deuxième balle et voilà, il est devenu un homme. Et après, c'était hyper rapide l'explosion parce que lui aussi voulait pendant des années que je l'entraîne. Il m'a appelé quand j'ai coaché Andrea, quand j'ai coaché Ivo. Lui, il m'a dit, jusqu'à quand Ivo il va jouer, j'ai envie que tu aies mon entraîneur. Il me disait ça tout le temps. Moi, en rigolant, mais il me disait tout le temps. Et ouais. Donc, quand j'ai arrêté avec Ivo, et lui, il m'a appelé et on a commencé. Et donc, lui aussi, je peux dire qu'il était complètement ouvert d'esprit. Il m'a écouté, mais comme un dieu, on va dire comme ça. Pour ça, les résultats, ils sont été si rapides et sa progression, elle était si explosive même, on va dire comme ça. Parce qu'il changeait énormément dans son jeu en très peu de temps.
Et la paire de couilles, tu l'as trouvée où?
Bah, le père de couilles, déjà, comme j'ai dit, j'avais ça dans mon mental avant que je l'ai perdu en France. Que Ivo, il m'a rajouté dans mon coaching. Et surtout, Lui, il gagnait tout le temps contre des bons 6-1, 6-2 le premier set, mais après, il reculait. Dès que le deuxième set, il allait 2 mètres ou 3 mètres derrière la ligne, et 2-3 mètres derrière la ligne, si tu joues au fond de court, t'es une merde. Il y a 1000 personnes qui peuvent faire ça. Donc, c'est facile de jouer 2-3 mètres derrière la ligne. Si tu jouais 2-3 mètres derrière la ligne et gagner des matchs, t'es obligé d'être Dominique Thiem et frapper chaque balle de toutes tes forces avec énormément d'effets. Même Nadal, il est sur la ligne, il s'est rapproché. Même David Ferrer, 10 dernières années de sa carrière, il est venu sur la ligne. Avant, il était 3 mètres derrière. Donc, le tennis moderne, il a changé énormément dans cet endroit. Et au niveau de service, je l'ai dit, attends, parce que moi, même si je joue, ça fait 12 ans que je ne joue pas des matchs officiels, j'ai gardé mon niveau tennistique parce que j'aime tennis et je tape à moi-même 3 fois par semaine au moins. Et moi, j'ai dit, moi, je peux te... attaquer tout de suite ta deuxième balle. Donc, moi, je suis capable de le montrer tout de suite en attaquant qu'il est obligé de modifier ça. Et il a, il a modifié. Donc, c'est pas qu'on a traîné avec Petko, si on revient. J'étais obligé de rajouter des choses, une chose tous les 3-4 mois. Donc, on était obligé d'aller lentement. Avec Philippe, on va dire en 2 semaines. Et lui aussi, il est incroyable au niveau tennistique. Et en son engagement de tennis, il est aussi un des meilleurs mondiaux. Lui, son problème, c'était autre part. C'est physique, où il n'est pas capable de se motiver à faire du physique.
Et il s'est passé quoi après Bercy? Parce qu'on n'en entend pas énormément parler.
Après de Bercy, il a eu, dans le pied, il a eu une blessure. Et donc, il était obligé de rater Open d'Australie. Il a raté 2 mois et demi. Et tout de suite, premier tournoi, après la blessure, il est revenu à Rotterdam, il bat Aliassime, il fait quart de Marseille, demi de Dubaï, fait troisième tour Indian Wells, c'est quatrième tour de Miami, donc il enchaîne hyper bien.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
T'as 26e place. Et là, le truc au pied, il a eu il traînait, je sais pas comment on appelle ça. Interfacitis, je ne sais pas comment on dit ça en français. Bon, dans les pieds, il a eu un problème, donc il n'a pas pu jouer pendant 6 mois. Et voilà, et après, comme lui, il était toujours classé 200, 300, c'était pour lui dur de rester chez lui et prendre le temps de se soigner et attendre qu'il est à 100% pour faire des tournois. Lui, il est allé à Wimbledon sans exagérer avec 2 heures de tennis. Donc, il n'a pas joué pendant 4 mois. Il a frappé 2 heures de tennis et il a joué avec sa copine qui elle joue au niveau 15-4 chez les hommes. Donc, il a eu 2 heures de tennis avec 15-4 et il est parti faire le Wimbledon. Et donc, parce que lui, il ne pouvait pas attendre vraiment être à 100% être prêt. Et du coup, à Wimbledon, comme il n'a pas joué 4 mois, il s'est blessé au bras parce que comme il a un talent tellement énorme, il menait un set et break contre un Chilien au premier tour, mais du coup, lui, il était prêt à faire un set. Mais il a fait 4 longs sets et là, il a eu une nouvelle blessure et voilà. Et après, il s'est prend du temps quand il se blesse, mais bon, au début, c'était dur pour lui. C'était dur pour lui rester à la maison et quand il sait qu'il peut avoir 60 000 euros ou 50 000 euros seulement s'il se présente en tournoi. Et avant, il galérait financièrement il y a 6 mois. Et donc, voilà, c'était pour ça. Mais même maintenant, je pense qu'il est 35 mondial. Je ne sais pas.
32, ouais. Selon toi, pourquoi Djoko est moins populaire que Roger et Rafa alors qu'il a l'air plutôt généreux avec ce qu'on a dit juste avant?
Déjà, il est de Serbie. Ça, c'est le... Non, mais c'est vrai. C'est le numéro 1. Numéro 2, quand même, avant ça, déjà, Federer, c'était une icône. Il est toujours. C'est un dieu de tennis. Donc, et lui, il était tout le temps troisième, Djoko, avant de commencer le série. Nadal, il est d'Espagne. Mais les trois, ils sont exceptionnels. Et déjà, il n'a pas de chance parce que Federer, c'est un dieu de tennis. Rafa, c'est un dieu de mental. Mec, il joue à 100% chaque match, 100% chaque entraînement. Donc, tu ne peux pas pas aimer parce qu'il se donne à fond. Et il a un comportement, les deux, exceptionnel, les deux. Il a un comportement sur le court. Donc, voilà. Et donc, il y a un peu tout pourquoi il est. Il est de Serbie. Lui, il s'énerve. De temps en temps, il casse des raquettes. Djoko, il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Il commence à gueuler. Mais bon, voilà. En Serbie, il est aimé. C'est un dieu vivant ici.
Pourquoi tu dis il est de Serbie et c'est un inconvénient, c'est un défaut?
Bah déjà, bah il faut pas oublier, même moi, j'ai senti ça quand j'ai arrivé à 99 en France. On était regardé, pas plus maintenant, mais on était regardé comme des agresseurs, presque comme des terroristes. Donc les gens, ils sont pas tous hyper intelligents, qui savent c'est que le jeu de politique. Tout le guerre, c'est le politique, il a rien à voir avec le peuple, surtout pas avec les sportifs. Il y a pas un sportif au monde normal qui a envie de faire de la guerre. Moi, je sais en tout cas que moi, personnellement, je n'y vais jamais faire une guerre. Mes enfants non plus. Donc, voilà, des gens intelligents. Mais avec les médias qui étaient le jour pour jour pendant des années, les Serbes sont ça, ça entre dans la tête, dans les arrière-pensées des gens. Maintenant, je sais qu'en quelle situation ils sont, des gens de Syrie ou Afghanistan, des pauvres gens, que tout le monde le regarde comme des merdes, et en fait ils sont dans la situation, c'est pas eux qui l'ont choisi, être en Hongrie, en France, en Allemagne. Je pense qu'ils préféraient rester chez eux et vivre une vie normale.
Tu parlais de tes enfants, comment tu gères d'être sur le circuit toute l'année avec deux enfants?
Dès qu'il y a vacances scolaires, ils sont avec moi au tournoi. Voilà, ils sont nés, même quand il est né, moi j'étais joueur professionnel, donc ils sont habitués que je ne suis pas tout le temps là. Donc on va dire que 25 semaines par an, qu'ils ne sont pas avec moi. Mais en même temps, on peut dire que c'est dur, mais en même temps, c'est bien. Quand j'arrive à la maison, ils ont envie de voir le papa et passer du temps. Et moi, quand je suis en Serbie, je suis 24 heures avec eux. Je ne fais pas autre chose, vraiment, je passe du temps avec eux.
Et ta femme fait quoi?
En fait, en Sorbonne, elle a fini pour être professeure d'allemand, français, anglais. Donc, elle a fait la fac de langue à Sorbonne, à Paris. Elle était étudiante pendant que j'ai joué, donc on n'avait pas de revenus. Mais maintenant, elle n'est pas obligée, elle ne fait rien. Elle est avec les enfants, en fait. Elle fait beaucoup de choses. Elle travaille à la maison, elle amène les enfants en entraînement. Mais elle ne fait rien pour gagner d'argent, on va dire comme ça.
Ah, tes enfants jouent au tennis?
Bah oui, mon fils il joue au tennis, là il s'est mis tard, moi je voulais qu'il fait du foot, surtout pas tennis pour que je passe pas ma vie entière dans le tennis. Mais en force de voyager au tournoi avec moi, il a commencé à 11 ans de tennis et il joue tous les jours maintenant. Il a, on va dire, un niveau 1-6-0, mais on va voir où il va être. Et ma fille elle est super forte. Peut-être un des meilleurs mondiaux dans son âge. Déjà, à moins de 10 ans, en Serbie, elle est numéro 1. Donc, c'est sûr qu'elle va être très forte.
C'est bon, ça. Énorme. Tu dis que pour être coach de tennis, il faut être un peu fou. Pourquoi?
Bah, déjà, moi, quand j'ai commencé, mon première expérience, j'ai coaché tout de suite un mec 30e mondial. Si je n'ai pas de courage à le dire quelque chose, moi, je n'ai pas peur, même si je peux entraîner Djokovic et le dire des choses comme ils sont. Et être franc, déjà, j'ai ça comme force. Donc, je suis complètement honnête et je dis tout le temps tout cash. Et c'est hyper simple. Même un enfant de 3 ans, il peut comprendre mon coaching s'il est à côté de nous. Moi je suis ce type d'entraîneur que même l'enfant de 3-4 ans, il peut te comprendre. Je simplifie le jeu de tout le monde que j'entraîne. Il y a des artistes que j'ai essayé d'entraîner que c'est dur à faire. Mais moi, à force d'entraîneur, je simplifie tout.
Passons à Damir Dzumur.
Déjà, lui, il a monté à 23e mondial et il a commencé à faire des fêtes, mais 2-3 fois par semaine, il a un peu perdu la pédale, on va dire comme ça. Ça, c'est un peu la faute. Il n'y a que Djoko qui n'a pas eu ça. Des joueurs balkanais. Donc, qu'ils réussissent déjà à ces jeunes âges à être si fortes. Et comme ils se sacrifiaient, ils ne sortaient pas. Et une fois qu'ils sont devenus très bons, ils ont commencé à faire la fête. Donc, il a commencé à faire la fête et tout ça. Et après, normal, à son niveau, il a commencé à tomber. Les blessures, ils ont commencé à arriver. Et moi, tout de suite, quand il m'a appelé, déjà, il est sorti de top 100, il m'a appelé pour l'entraîner. Et moi, j'ai dit, OK, On peut, mais je lui ai donné trois conditions. Je lui ai dit, bon, respect total par rapport au coach, mais respect pour hygiène de vie. Déjà, tu peux sortir, mais une fois par mois, tu ne peux pas te bourrer la gueule, tu ne peux pas faire ça. Déjà qu'on revient à normal. Il a commencé à faire ça. Du coup, au niveau de physique, il monte. Il n'a plus de pépins physiques, il n'a plus de blessures. Mais bon, là, comme c'est au tennis, c'est dur. Bon, déjà là, avec Corona, c'est un peu compliqué, on est bloqué. Mais de nouveau, il est obligé de faire des qualifs maintenant. Donc, ce n'est pas si facile à exploser et revenir à un niveau de classement. Mais au niveau de jeu, là, il est déjà top 50. Et s'il travaille bien là, pendant 2 mois, il peut revenir à un niveau de jeu de top 20 mondial. Donc, il a le matériel parce qu'au niveau de déplacement, c'est un des meilleurs au monde. Et il a un super toucher de balle, et voilà. Mais il est, j'ai pas encore trouvé, comme j'ai trouvé pour Ivo ou Andrea ou Philippe, j'ai trouvé le déclic, qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse, comment réagir mentalement, que lui, il est tout le temps à 100%. Avec lui, je cherche encore. Lui, il est, voilà. Donc, c'est intéressant d'être entraîné en tennis. Avec chaque joueur, t'as pas un chemin. C'était pas un truc noir et blanc ou un formula magique et tu dis ça va marcher avec lui ça, avec l'autre. Non, mais chaque joueur, c'est un nouveau bouquin, on va dire comme ça. Et lui, on va dire que c'est un bouquin compliqué pour moi. Au début, c'était chinois, mais là, ça vient d'être allemand. Voilà, donc, mais j'y vais le mettre en serbe. J'y vais le mettre le bouquin en serbe et là, il va déchirer tout. Mais au début, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe. C'était vraiment compliqué.
Comment tu fais pour te former, pour devenir un meilleur coach? Est-ce que tu vas voir d'autres coachs? Tu parles beaucoup, tu lis, tu fais des formations, tu fais comment?
Bah déjà, là, tu vois que je parle beaucoup. Mais, mais tu n'apprends pas beaucoup si tu parles beaucoup. Déjà, j'ai compris ça. Donc, je suis tout le temps entouré. Novak, c'est mon ami, Marin Cilic, Ivo. Donc, je suis tout le temps entouré dans le tournoi parmi les joueurs. Et surtout, qu'est-ce que j'essaie? C'est écouter, pas parler. Je suis populaire entre eux parce que je dis beaucoup de bêtises, beaucoup de blagues. Donc, ils rigolent bien à côté de moi. Mais moi, je veux dans chaque dîner, chaque repas qu'on fait, que j'apprends quelque chose de chacun. Donc, ouais. J'ai vu ça chez Novak, par exemple. Qu'on a fait quelques dîners avec Ivo, Novak et moi. Novak, il voulait toujours passer la thème au service, demander à Ivo qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que tu penses avant servir, quand est-ce que tu décides ou à quel endroit tu vas servir. Et ben moi, j'ai pris un peu les techniques de Novak. Bon, quand je suis entouré parmi des joueurs très forts, même parmi des bons entraîneurs, j'essaie d'écouter et après essayer sur le terrain. Et je peux essayer même sur moi-même parce que j'ai gardé mon niveau tennistique et voilà. Donc, au tennis, quand tu voyages dans les plus grands tournois du monde, tu apprends si tu es ouvert d'esprit, si tu n'es pas un con qui sait tout. Les pires des gens qui n'avancent pas, c'est des cons qui pensent qu'ils savent tout. Donc, une fois que tu penses que tu sais tout, tu commences à descendre ton niveau, même en tant qu'entraîneur. Je veux écouter chez les gens intelligents, même chez les préparateurs physiques. Je regarde chaque séance, je le fais avec des joueurs. Et je l'apprends tous les jours. Donc, en regardant, en écoutant, en regardant sur le télé aussi, je regarde même quand je suis à la maison, quand il y a une saison, je regarde tous les jours un match. Et quand on est en Grand Slam ou dans les tournois, je regarde toute la journée, en fait, des matchs. Et après, quand on s'entraîne, par exemple, là, on a fait des préparations à Dubaï, on a fait des entraînements avec Novak ou avec Roger. Tu piques, tu prends 2-3 exercices de Roger, tu prends 2-3 exercices de Novak. Tu passes ta journée avec Noah, tu cours avec lui, tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait, comment il fait pour récupération, et tu progresses. Et moi, j'ai eu de chance que je suis ouvert, qu'il y a beaucoup de Serbes, beaucoup de Balkanais qui jouent, que je parle français, je parle anglais aussi, donc voilà, pour moi, c'est facile de me mettre en contact et apprendre des choses.
Est-ce que tu as une anecdote sympa avec Roger ou Rafa ou Djoko à raconter en dehors du cours?
Ça, en fait, j'ai fait le bouquin et après, j'ai fait des millions. Non, mais ça... on est comme une famille, hein. Des anecdotes, on ne peut pas raconter. Vraiment. Non, mais comme je dis, je peux raconter que des tennis ou des entraînements qu'on a fait en dehors. On parle, on rigole bien, mais c'est. Voilà.
Quel est le plus gros regret de ta carrière jusqu'à aujourd'hui ?
Bah, plus grand regret, bah bon, déjà que la guerre est arrivée, quand vraiment, je pense que j'ai pu exploser très tôt, être tout de suite dans les 200 à 20 ans. Donc, il y a eu cette guerre, il y a eu cette monoclose, il y a eu blessure de quadriceps. Et après, bah, les regrets financièrement que je n'ai pas pu investir dans un bon entraîneur, vraiment, qui me suit deux saisons et que je vois où ça peut m'amener au niveau de joueur. Mais moi, je suis le genre de mec que je sais pas que je le regrette, que je me réveille malheureux le matin. Pas du tout. Ça, c'est si je regarde en arrière, mais j'ai vraiment zéro regret. Qu'est-ce que j'ai pu, je fais tout, qu'est-ce que j'ai pu avec des moyens que j'ai eu. Donc c'est assez simple. Donc moi j'ai donné mon meilleur avec des moyens et circonstances qui sont été de là. Voilà.
Donc, on a compris.
Je parle pas comme un politicien. Là si Macron qui me regarde, putain, ministre de sport, j'y vais devenir.
Quel est l'échec qui t'a le plus appris ?
Ouf. Bon, l'échec au tennis, on a l'échec presque chaque semaine. Donc, chaque défaite, c'est un échec, mais tu apprends de chaque semaine. Mais après,
The biggest one.
The biggest one, là déjà avec Philippe, que je l'ai laissé aller à Wimbledon, ça me fait très mal que je n'ai pas pu le retenir et qu'on montre que lui pouvait être top 5, sûr et certain à côté de moi, c'est sûr qu'il pouvait être top 5. Ça, c'est un regret qui me fait super mal qu'il n'a pas resté à Novi Sad. Il était à Novi Sad chez moi pendant 6-7 mois dans la ville où j'habite, et là où on a fait des miracles. Ça me fait mal, très mal. Avec Ivo, je n'ai pas de regret. Avec Andrea Petko, c'était de regret qu'elle est allée très tôt après ses blessures. Mais bon, on va dire que ce n'est pas des regrets. Mais allez, avec Philippe, qu'on n'a pas pu attendre encore un mois et demi qu'il est à 100% et on a un peu travaillé ensemble bêtement. Bêtement, c'était vraiment bête parce qu'on a fait des super résultats et voilà. Ça, c'est mon regret en tant qu'entraîneur. En tant que joueur de tennis, j'ai eu des matchs où j'ai mené 5-3, 3e, 40-15. Mais mon plus grand regret, pour être honnête, c'est que j'ai eu mon mental de français. Parce qu'au Challenger, j'ai perdu qu'une fois dans ma vie au premier tour de Challenger. Donc, chaque fois, j'ai passé premier tour de Challenger. Mais chaque fois, j'ai joué au deuxième tour contre des mecs top 100. Et chaque fois, j'ai respecté des mecs. Mais c'est sûr, au moins, sur les 8 défaites que j'ai eues, j'ai pu les serrer 3 fois. Et même moi, je ne pensais pas à cet instant-là. Moi, je pensais que c'était des Martiens qui jouent beaucoup mieux au tennis que moi. En fait, tout est si tu joues bien au tennis, si tu sers bien, ça joue au détail. Donc, ça joue au paire de couilles, vraiment que tu es lucide. Et si tu es bien physiquement, tu peux taper n'importe qui. Moi, ça me fait très mal que j'ai eu mental français. Voilà. Au moment où j'ai pu percer, ça me fait très mal ça. Quand je regarde en arrière que j'ai respecté des joueurs, même j'ai respecté même des joueurs qui sont été 150, 200 mondial, ça me fait mal. Ça me fait mal parce qu'une fois que j'ai pu m'entraîner avec des top 100 et tout, même avec Philippe, mais maintenant, jour même, quand on fait des séries jusqu'à 11 du fond, il galère pour me battre. Donc du coup, je me dis, et lui, c'est un des joueurs le plus solide du fond de cours. Et là, je me suis dit, voilà, ça, c'est mon regret. Regret surtout sur le mental, que j'ai respecté des joueurs.
Selon toi, le mental de français, c'est une maladie ?
C'est une maladie. C'est une maladie. C'est le système qui est le meilleur au monde. Pas me prendre mal. C'est le meilleur au monde, le système de tournoi. Mais il a un déficit. Ça te fait ta mental, que tu joues en perf. Ça, c'est pas bien pour devenir un champion. C'est le meilleur système pour être dans les 500 meilleurs joueurs du monde, pour être même dans les 100 meilleurs joueurs du monde, mais pour être vraiment un champion, pour être Novak Djokovic, Ana Ivanovic, Yelena Yankovic, je ne sais pas, des joueurs qu'on a eu qui sont numéro 1, il n'est pas bon le système. Le vrai système, il faut commencer en ligne, donc jouer tout le monde en ligne, mais le problème en France, qu'il y a, je ne sais pas, 2 millions licenciés, il y a tellement de monde, mais bon. Après, il faut se dire, des moins bons, ils font des tournois pour des moins bons. Et des forts, ils font des tournois en ligne que tout le monde commence en même temps. Et que voilà, si tu joues, personne n'a envie de perdre au premier tour. Mais si tu es moins 2 et tu joues à moins 30 au premier tour, bah, tu vas dire putain, mais je vais pas faire un first, je vais pas perdre au premier tour, je vais serrer ce moins 30. Et déjà, ça te change le mental. Donc, ouais. Et après, quand tu joues à moins 30, bah, une fois que tu l'as serré deux fois, bah, tu vas se dire tout est serrable, tout est possible. Donc, c'est ça le problème du système français. C'est sûr, parce que moi, je l'ai fait. Comme j'ai dit, j'ai passé de niveau à 15. Donc, j'ai passé tous les classements français en très peu de temps. Et je peux dire, c'est un très grand problème.
Belle analyse. J'avais jamais vu le truc sous cet angle-là.
Prendre... Toi, tu n'as pas senti le système serbe. Toi, tu n'étais pas dans les autres pays où c'était commencé en ligne et tout. Toi, tu es né et tu as vécu toute ta vie dans le système français. Donc, ouais. C'est normal que tu ne vas pas de cet angle-là. Donc, c'est pour ça qu'il est bien prendre de chaque culture tennistique, n'importe, là, on parle que de tennis, c'est bien prendre tout, de chaque culture, il faut prendre des meilleures choses. Si on parle de toilettes, il faut prendre un toilette japonais, pas un toilette, je ne sais pas, turc ou voilà. Donc, il faut prendre de chacun, il faut prendre des meilleures choses. C'est la même chose au tennis. Il faut faire un mix en système pour... Si on veut former des pros et des vrais champions, que la France, il a tout pour l'y voir. Donc, vous avez n'importe quel village en France, il a le terrain de tennis. Chez nous, il y a 15 ans, en Serbie, même la ville d'où est Monica Seles, on n'avait pas salle de tennis. Les gens, ils ne peuvent pas croire ça. Donc, on jouait que l'été, 8 mois. Et les 4 mois, on jouait dans les gymnases à l'école... où c'était moitié terrain.
Quelle est ta plus grande fierté, Beta?
Bah bon, c'est mes enfants et ma famille, mais au niveau tennis, que même par rapport, je peux même dire comme ça, sèchement, par tous les merdes qui m'ont arrivé, si jeune que j'ai arrivé, je vis même mon rêve aujourd'hui. J'entraîne des joueurs motivés parce que moi, je ne voulais jamais être un BE. J'ai eu l'occasion même de travailler en France, aux États-Unis, en Chine. J'ai eu des offres de fou, mais je ne voulais pas entraîner des joueurs, comme on dit, qui n'ont pas faim. Et vraiment. Donc, ma plus grande fierté, c'est que j'ai fait 10 ans avec des joueurs super motivés qui sont été dans le top 20 mondial, top 10 chez les filles. Donc, moi, je suis fier. Fier de moi que j'ai réussi par tous les merdes qui sont tombés sur moi, même à très jeune âge. Déjà, 8 ans, il y avait la guerre dans mon pays. Donc, moi, j'ai vécu de 8 ans à 17 ans. Mes parents, ils ont eu 2 euros par mois. Le paye. Donc, nous, on s'est entraîné avec des balles qui n'ont eu un an, des balles injouables. Maintenant, quand je pense que je change tous les jours des balles neuves et que les joueurs, ils se plaignent, je dis, oh putain, mon gars, qu'est-ce que t'es... Voilà, et donc, j'ai fierté par rapport à ça, oui.
Quand t'es sur le circuit, à la fin de la journée, qu'est-ce qui te rend heureux d'avoir accompli en 24 heures?
Bah déjà, moi, je suis un maniaque, même si je rigole et je déconne beaucoup, beaucoup en dehors de cours. Avec moi, tous les joueurs, c'est complètement détendu en dehors de cours. Mais sur le cours, si tu ne donnes pas 100% et que tu t'entraînes avec moi, tu es mal barré. Même si tu es 10e mondial ou je ne sais pas, je suis capable de te jeter dans le grillage, gueuler sur toi. Et moi, je suis ce type d'entraîneur, c'est vraiment... Mais si tu donnes 100%, je suis l'entraîneur le plus gentil au monde ou avec qui tu vas passer le meilleur temps de ta vie. Si tu fais une séance à 50%, bah, là, je peux jeter des balles sur toi, vraiment crier sur toi toutes tes forces. Même si tu es 20e mondial, moi, je m'en fous. J'ai déjà fait sur Philippe, sur Djumour, sur Ivo, lui, il savait. Ivo, quand il y a un match, il traînait sa misère. Moi, j'ai crié, mais toutes mes forces, lui, même s'il a 3 ans de plus, même s'il a 10 ans, il était top 30 mondial, moi, je m'en fous. Donc, ma plus grande fierté à fin de journée, c'est que le joueur, il a donné 100%, que je peux dire, on a fait une super séance, on a progressé, et moi, je crois, mais en fait, ça montrait en 10 dernières années, dans mon succès, au tennis, c'est la continuité. Donc, donner à long terme 100% à chaque séance. Et à hygiène de vie. Et c'est super simple. Si tu te donnes à 100%, si tu écoutes ton entraîneur, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses et que tu manges bien, tu dors bien et tu te bourres pas la gueule, je pense qu'il n'y a pas le moyen que tu n'y arrives pas. Il n'y a pas de moyen. Même si tu es une, on va dire, une foufoune, que tu n'as pas une paire de couilles, bien, tu vas arriver. Mais voilà, c'est ça.
Et si Benoît Paire vient te chercher, tu lui réponds quoi?
Bah, ça, c'est ça, c'est compliqué déjà entraîner. Parce que lui, déjà, après deux semaines, il va dire « Va te faire foutre, pétard, tu ne vas pas crier sur moi. » Mais moi, j'y vais crier s'il ne donne pas 100%. Voilà, lui, c'est un artiste. Moi, peut-être, je ne sais pas. Il n'y a pas tous les entraîneurs. Pas le meilleur entraîneur qui est bon pour tout le monde. Déjà, il faut mettre choses claires. Moi, j'étais dans les top 10 joueurs entraîneurs. J'étais voté 4-5 ans. Mais si j'ai entraîné quelqu'un d'autre, par exemple Kyrgios, peut-être j'étais le pire entraîneur du monde. Ou si j'entraînais peut-être Benoît Paire. Moi, c'est sûr que je ne vais pas laisser lui brader un match ou je ne vais pas le laisser faire une séance à 50%. Et ces joueurs, ils sont habitués à faire ça. Voilà, c'est sûr que Benoît, c'est incroyable qu'il est arrivé à ce niveau-là en bradant 20% de ses matchs. Donc, il a une marge de progression, lui, pour être encore plus haut. Mais bon, et je pense à côté de moi qu'il n'est pas habitué à ça. Donc, il n'est pas habitué que quelqu'un crie sur lui ou quelqu'un qui... Voilà. Moi, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas un meilleur entraîneur pour tout le monde. Et il faut que ça clique de deux côtés. Et il faut que le joueur, il croit 100% à son coach. S'il croit à 90%, bah, les résultats, ils vont être moyens. Il faut vraiment que c'est à 100%. Et il faut que je répète encore une fois, Ivo, il est incroyable par rapport à ça, même Philippe.
Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie, Petar?
J'ai lu déjà tous les livres de tennis des champions de Sampras, de Connors, même de Selech, de Blake, de Murray, de Rafa, de Agassi. Et dans chaque livre, j'ai appris juste une ou deux choses, toutes petites choses. Mais une ou deux choses, même si j'ai lu 300 pages et j'ai appris qu'une chose sur une phrase, moi, ça me suffit et je suis content. Mais moi, je ne passe pas ma journée à lire des romans de Harry Potter. Je n'aime pas perdre le temps sur les trucs qui ne m'apportent rien. Donc, je ne lis pas du tout des choses comme ça. J'ai lu énormément au début, quand j'ai commencé d'être entraîneur, surtout des livres français par rapport à psychologie, de sophrologie en France, parce que vous êtes bon en ça. J'ai lu des livres en préparation physique, je voulais progresser même là. Comme j'ai dit, il n'y a pas un livre. Il y a un livre de Brad Gilbert qui est super bon pour des gens de 14-15 ans qui veulent se mettre winning ugly, pour des joueurs qui veulent percer ou être négatifs. Ça, c'est un livre à recommander. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas un livre que je peux dire c'est une bible de tennis. Il n'y en a pas. Okay. Mais par exemple, Sampras, il a mis juste une phrase intéressante dans 300 pages. Mais ça me suffit. Son Galixon, son entraîneur, il a dit quand il jouait un gaucher qui bougeait un demi-mètre à gauche, il se mettait quand il attendait sa première balle pour fermer l'angle de mec. Voilà, des petites choses comme ça. Ou quand Andy Murray, il lobait des mecs, il disait dans le livre, il disait le livre par rapport à mon joueur Ivo, qu'il lobait Ivo, même si lobe, il donnait pas le résultat immédiat et ça repoussait Ivo qu'il collait plus le filet. Il disait ça dans sa livre. Et moi, j'ai utilisé ça. Je disais ça à Ivo, tu vois. Tu t'en fous complètement si un mec, il te lobe 5 fois dans le match. Il faut que tu colles le filet. Et comme ça, n'importe quel volet de merde, c'est presque gagnant. Une fois que tu as collé le filet. Dans le livre de, pardon ?
James Blake.
De James Blake. Lui, il a raconté sa histoire quand il s'est blessé et tout ça. Du coup, de James Blake, là, je ne peux pas me souvenir vraiment de détails... qui m'a passé l'intention parce que je l'ai lu il y a 3-4 ans. Mais bon, ça a dû être inconsciemment, ça a dû entrer dedans.
Et Winning Ugly, c'est vraiment un must-read?
Winning Ugly, c'est un must-read pour des joueurs qui veulent aller sur le futur, qui sont 0-2 ou même des joueurs qui sont 15, qui veulent percer. C'est Winning Ugly pour un joueur qui est top 100. À mon avis, ça ne sert à rien parce qu'il a déjà passé ça. Okay. Mais il voit la philosophie... pour les joueurs amateurs, déjà quand tu te chauffes, quand tu tapes avec ton joueur, ton adversaire, et tu vois qu'il se décale tout le temps en coup droit, et qu'il tape que des coups droits à l'échauffement, 90% de chances qu'il a un revers de merde. Voilà, il dit ça dans le livre, et c'est vrai. Donc, chaque joueur à l'échauffement à ce niveau-là, il ne veut pas te montrer sa faiblesse. Donc, il ne chauffe pas. Et donc, tout de suite, tu peux le bombarder dès le premier jeu, jouer sur son revers. Et voilà, il ne se sent pas sûr dans cet endroit. Mais il y a plein de choses dans le Winning Ugly. En ramenant deux paires de... Comment on appelle? Comment je m'appelle là, Francisco? Ou deux paires de lacets, mettre dans le sac, parce que ça peut tu peux toujours péter le lacet. Déjà, ramener une paire de chaussures toujours extra, Ça, par contre, je raconte même à mes professionnels qu'ils ont toujours une paire de chaussures extra. Là, par exemple, Damir, lui, il va qu'avec une paire de chaussures en match et il court comme un fou. Et s'il y a un accident de chaussures, bah, il n'a pas de solution. Donc, il y a plein de choses dans Winning Ugly intéressant, super intéressant pour des mecs de 15 à moins 15, je pense, c'est une bible de tennis.
Quelle a été la plus grosse période de doute de ta vie ?
En fait, quand t'es joueur de tennis, t'as tout le temps le doute, mais surtout au début, il faut que je revienne quand ils m'ont assimilé à 15, et quand j'ai fait des tournois de village, même si j'ai gagné ces tournois, mais j'ai tapé que des 3-6, je me dis, mais je suis où je me suis embarqué, j'avance pas du tout dans mon tennis. Surtout, j'ai douté là, pendant 2 ans, c'était calvaire en tous les points de vue. Physique, mental, doute, financière. Et une fois que tu sors de ça, t'es unstoppable, comme ils disent les Américains. Après, c'est dur de t'arrêter. Voilà. Après, t'as une but, tu le suis, et plus rien t'arrête. Et t'as plus de peur. Après, t'as plus peur de... Et tu te prends pas la tête des petites choses, des petites merdes qui t'arrivent dans la vie, une fois que t'as vécu ça. Donc, c'est vraiment... Tu deviens un homme après toutes ces merdes que tu as vécues. Voilà. Donc, chaque chose négative, et là, ça, je suis sûr et certain, Chaque truc mal qui t'arrive dans la vie, ça te renforce et tu progresses. Moi, je suis un vrai exemple de ça.
Si tu devais faire 30 secondes de coaching au pétard qui était sur le circuit, tu lui dirais quoi ?
Ah bah déjà, putain, perds des couilles, respecte pas et reste sur ta ligne, même si tu mènes un set, un break, surtout recule pas, reste agressif, joue ton jeu, t'as un revers de 10 meilleurs mondiaux, crois en ça et ose. Moi, il n'y avait personne de me dire ça et moi, j'ai souvent reculé. Quand il fallait finir, je n'osais pas, j'avais pas peur de couilles et j'ai respecté. Voilà, donc ça, surtout les trois choses, voilà. Mais c'est dur de faire tout seul. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont arrivés tout seuls à meilleur niveau que moi, vraiment tout seul. À vraiment ouais. Meilleur niveau que moi. Donc, moi, j'ai vraiment arrivé tout seul. Donc, il y a mon père qui m'a aidé quand j'avais 17 ans et 18 ans, qu'on était en France. Lui, il m'a fait du panier parce que j'avais personne joué. Il n'y avait que des joueurs à 15-2, 15-3 avec qui je ne pouvais pas progresser. Parce que même des joueurs bons qui sont été de Saintes, ils travaillaient à Paris ou je ne sais pas où, mais ils n'étaient pas à Saintes. Tout seul, c'est très dur. Tu es obligé ouais. De quelqu'un.
Pareil, si tu devais faire 30 secondes de coaching au pétard qui vient tout juste de démarrer sa carrière d'entraîneur, tu lui dirais quoi ?
Moi, j'ai eu de chance, j'ai commencé avec Ivo. Prends un peu de patience, ne réagis pas sur le premier truc. Parce que moi, je réagis direct. Si tu cours pas à l'entraînement sur première balle, à moi, je pète un câble. Il n'y a pas le truc, moi, déjà, c'est souffle, pétard. Je me disais, souffle, prends ton temps. Compte jusqu'à 10. Moi, je l'explose à 1, même pas à 10. Donc, voilà. Mais même maintenant, quelquefois, j'ai besoin de me dire ça. Jumo, 2-3 fois, il a pris, j'ai crié sur lui toutes ses forces. Mais toutes mes forces. Que tout le club, il s'est tourné et tout. J'étais capable, même physiquement, le jeter dans le grillage. Parce qu'il a laissé la balle passer à côté de lui. Donc, déjà, je me disais, pétard, prends 10 secondes, souffle. Essaye de parler d'abord tranquillement, pèse-moi, que tu l'expliques, il faut qu'il se batte, que ça il fait contre lui, pas contre moi. Voilà, en 30 secondes, qu'est-ce que je disais à pétard le coach.
Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien ?
Citation, respecte tout le monde, mais ne perde personne. Ça, c'est que je tiens et je vais tenir toute ma vie. Vraiment, yes. Ne perde personne, même si tu joues Djoko. Moi, si mon joueur il joue Djoko, il perd, je ne suis pas content. Même s'il fait 7-6 au troisième, je m'en fous total. Même si je fais derrière Nadal, je m'en fous complètement. Moi, je veux qu'il serre ce mec. Déjà, avec Djoko, Ivo, il avait le truc positif, mais c'est vraiment cet état d'esprit, respecte personne.
Toi qui connais bien Djoko, c'est quoi le plan de jeu à adopter pour le battre ?
Servir 3 aces par jeu. Donc, déjà, ça aide beaucoup. Et voilà, être en chaleur totale. Non, mais c'est là, on rigole, mais c'est un peu comme ça. C'est un mur, c'est un dieu de tennis. Il va devenir meilleur de tous les temps très bientôt, dans 2-3 ans. Donc, pour le battre, il faut que lui, il n'est pas dans le meilleur jour, que toi, tu es dans le meilleur jour, que toi, tu le crois et que tu sers bien. Donc, avec Carlo, vraiment, je pense qu'on avait un plan et même Novak, en connaissant, il va trouver cette interview. Lui, il trouve tout. Mais je pense qu'avec Yvon, il y a un plan de jeu. Il n'aime pas trop slicer. Il a de la chance que personne ne change le rythme et joue en slice. Dans le tennis, il n'y a que Feliciano Lopez, Federer et Yvon. Il n'y a que trois mecs qui font le slice dans le top 100. Donc déjà, il faut le changer le rythme parce qu'en rythme, tu n'as aucune chance. Strictement aucune chance, même si tu t'appelles Rafael Nadal. Voilà, changer le rythme, oser aller au filet quand tu peux. Voilà, jouer avec vraiment très grand paire de couilles. Parce qu'en jouant normal, en tennis normal, je pense que tu n'as vraiment aucune chance. Surtout dans les Grand Slam où ça joue en 5-7. Voilà, servir le corps. Mais bon, ça c'est après, c'est des trucs comme ça.
Pour terminer, est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast qui parle français pour parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir?
Pas peut-être Andrea Petkovic, mais moi, elle travaillait beaucoup en français. Donc, elle demandait même de moi que je le parle en français. Donc, elle progressait énormément en français quand je l'ai coachée, même en français serbe. Je pense qu'elle a gardé le niveau où elle progressait. Donc, à mon avis, il faut parler avec le dieu de travail. Tu es obligé de parler parce qu'elle, c'est une dieu de bosseuse.
Génial. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter?
Bah déjà que ça commence à jouer, que ce virus il dégage et qu'on peut continuer à aller sur le plus grand tournoi du monde et que la meilleure santé pour tout le monde. Et voilà, et le peace and love, surtout pas de guerre. Ça, c'est la plus grande merde qui peut arriver.
Et t'es bien placé pour le savoir.
Et en France, on a besoin de faire attention à ça parce qu'on n'est pas sur le bon chemin là-bas. Donc les gens, il faut qu'ils savent et qu'ils apprennent à vivre tous ensemble.
Merci beaucoup, Petar.
Ciao, merci à toi.
Ciao, à bientôt.
Bien joué et merci d'avoir écouté cet épisode avec Petar jusqu'au bout. J'espère que tu t'es régalé et si c'est le cas, tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis directement sur leur téléphone. Merci pour vos commentaires adorables, il y en a deux qui me tiennent vraiment à cœur, celui du capitaine des Centes classé 31 et de Baptiste Bourdary qui écrit « C'est vraiment sympa de pouvoir avoir le discours et les anecdotes de tous ces acteurs du tennis, la petite touche en plus quand ces podcasts sont animés par un rival tennistique de sa jeunesse. » Et ouais, on s'est fait quelques bonnes batailles étant jeune, Bat, et tu devineras que la plus savoureuse pour moi, qui doit être la seule que j'ai gagnée d'ailleurs, était en finale des minimes des championnats de la Nièvre, il me semble. Donc voilà, 5 étoiles sur Apple Podcast nous aident énormément pour référencer la chaîne et avoir des invités de renom. Ça prend 10 secondes et tu deviens instantanément une légende dans notre cœur. Tu peux aussi faire une story Instagram en taquant le compte Tennis Légende. Lorsque tu découvres un nouvel épisode, on te repostera illico. On a une nouveauté cette semaine. On lance avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux donc nous encourager à tout donner chaque semaine à hauteur de 2€, soit un café par mois, ou plus, si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode juste en dessous. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, boutique.tennislegende.fr. T'as également le lien juste en dessous de la description de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cette semaine et on se retrouve mardi prochain. À très vite pour un nouveau contenu et comme on dit, ciao ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.